Fidèles auditeurs et auditrices du Studio Kalangou, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous quotidien, le forum du Studio Kalangou. La liberté de circulation et d'établissement est l'objet d'intenses débats et de discussions, notamment au sein de l'Union africaine. Il arrive qu'une personne, une famille ou une communauté change de village, de pays, de continent pour une durée longue ou définitive pour une ou plusieurs raisons. Cette action est la migration. Aujourd'hui, nous allons discuter du genre et de la migration irrégulière au Niger, conséquences et avantages pour les concernés et pour le Niger. Je suis Rafika Taher à la présentation et pour une analyse du sujet, nous accueillons ce soir Madame Aïchatou Boubacar, assistante coordination projet jeunesse, enfance, migration et développement, et Madame Amadou Bouzou Djamila, aménagiste. En Afrique et dans plusieurs pays en Asie, le mouvement ne se fait pas uniquement par nécessité religieuse ou économique. Elle est comme un devoir initiatique pour passer de l'étape de l'enfant à l'adulte. Mais depuis un certain temps, on parle de féminisation de la migration. Madame Aïchatou Boubacar, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi est-ce qu'il s'agit?
Bonjour.
Bonjour.
Dans les années antérieures, le phénomène de la migration était carrément masculin, car ne concernait que les hommes. Mais depuis un certain temps, on constate que les femmes empruntent de plus en plus la voie de la migration. Et plusieurs facteurs sont à la base de ce phénomène. Donc, il y a plusieurs causes qui poussent ces femmes-là à quitter leur famille, pour aller chercher le lendemain meilleur, comme on le dit.
Et vous pouvez nous dire comment est-ce que votre projet intervient dans la migration?
JIMED est une organisation de développement et de lutte contre la défense des droits des humains et travaillant sur les questions de la migration, de la lutte contre la traite des personnes et de l'extrémisme violent. On mène aussi des sessions de sensibilisation, mobiliser et renforcement les capacités des différents acteurs qui œuvrent dans la migration et des communautés sur les droits des migrants et les thèmes annexes, trafic de documents, comment les aider à réunir les documents et migrer d'une manière responsable. On combat aussi la traite des personnes et assiste les victimes.
Est-ce que ça vous arrive d'aller vers ces migrants ou bien c'est eux qui viennent vers vous?
Bon, récemment, je me rappelle d'un projet qu'on a récemment clôturé. Projet, il y avait une partie qui concernait le monitoring. Le monitoring consiste à aller vers ces migrants-là et recueillir leurs besoins et venir faire un rapport afin de pouvoir formuler des projets qui vont en leur faveur. Donc, on va vers ces migrants-là une fois dans la semaine, dans les sites d'immigration, dans les différentes gares où on peut trouver des migrants afin qu'on puisse trouver des solutions à leurs problématiques.
Madame Djamila, est-ce que le Niger est concerné par cette féminisation de la migration?
Le Niger est concerné par la migration féminine parce qu'on constate ces dernières années que les femmes et les jeunes filles migrent vers l'extérieur ou bien vers les villes même vers les différentes régions du Niger. Et les causes qui poussent ces femmes à migrer sont des fois surtout liées à la pauvreté. C'est surtout lié à la pauvreté parce que avec la récolte qui n'est pas bonne ces dernières années, c'est ça qui pousse des fois les femmes à aller migrer vers les villes ou bien à l'extérieur à la recherche d'une vie meilleure.
Selon vous, les femmes, ça donne à cette activité? Est-ce qu'elles sont nombreuses aujourd'hui ou bien elles commencent juste?
Non, elles sont nombreuses. Puisque quand on regarde même ici à Niamey, vous allez voir, il y a des saisons où vous allez voir des jeunes filles et des femmes qui sont là. Des jeunes femmes qui s'adonnent à des travaux domestiques. Ce sont des femmes, ce ne sont pas des femmes de Niamey, ce sont des femmes qui quittent le village pour venir ici à la recherche du travail, pour subvenir à d'autres besoins. Et d'autres, ils partent même à l'extérieur, vers la Libye, l'Algérie.
Madame Aïchatou, de combien de types de migration est-ce qu'on peut parler?
Il y a la migration à l'international, il y a la migration aussi dans la sous-région. Il y a aussi la migration, comme elle vient de le dire, des femmes, des jeunes filles qui viennent des villages du Niger, qui viennent à Niamey à la recherche d'une meilleure condition de vie. Le Niger, c'est un pays d'ailleurs de transit. La plupart des femmes qui viennent vers le Niger, c'est pas pour rester. Donc c'est un pays de transit. Et si pour aller vers l'Algérie ou la Libye, il faut forcément passer par le Niger. Donc toutes ces femmes-là, des femmes de la sous-région, quand elles viennent, peut-être il y a l'influence aussi, ce qui conduit les femmes nigériennes aussi à emprunter cette voie-là. C'est ce que je voulais.
Aujourd'hui, on parle de combien de femmes nigériennes migrantes?
Une évaluation rapide de la situation de la femme qui migre depuis, vers et à travers le Niger. Donc ce n'est pas d'une manière générale juste les femmes nigériennes, mais les femmes en transit, les femmes qui migrent depuis, vers et surtout à travers le Niger. Vu d'ensemble sur les femmes qui migrent depuis, vers et à travers le Niger, 46% des migrants nigériens de l'Union européenne en 2020 étaient des femmes et des jeunes filles. Profil de type des femmes migrantes en transit au Niger. Il y a le pays d'origine, la plupart viennent du Nigeria, du Togo, du Bénin. Donc, pays de destination, c'est toujours l'Algérie et la Libye. Mais la personne préfère rester ici, faire des travaux domestiques, travailler un peu afin de gagner un peu d'argent pour continuer les chemins. Ils sont généralement âgés de 18 à 30 ans, niveau enseignement supérieur ou secondaire. Donc, on estime que 54% de tous les migrants internationaux au Niger en 2020 étaient des femmes et des jeunes filles.
Mais pourquoi est-ce que ces femmes migrent, selon vous?
Souvent, vous savez, les femmes, des hommes, on peut parler des hommes qui migrent, qui partent à la migration et laissent les femmes avec des enfants pour assurer leurs conditions de vie et pour donner une meilleure aussi condition de vie aux enfants. Elles sont obligées d'aller chercher afin de subvenir aux besoins, à leurs besoins et ceux de leurs enfants. Donc souvent, c'est la pauvreté qui les pousse à partir. Il y a aussi cet phénomène qu'elle vient de parler, que souvent les récoltes ne donnent pas. Il faut forcément aller chercher ailleurs afin de compléter ce qu'on a. Il y a aussi cet phénomène culturel, comme je venais de le dire, parce que quand celle-là, elle est partie, elle est revenue avec beaucoup d'argent. Elle est revenue, elle a fait beaucoup de choses quand elle est revenue. Il faut que je parte pour que je puisse aussi faire la même chose. Donc c'est comme devenir un truc culturel, comme si je peux le dire, parce que c'est le cas du, comment dire, Kanté. C'est devenu comme une culture. Si tu ne pars pas à la migration, c'est que tu n'as rien fait en fait. Donc c'est qui pousse aussi les femmes à aller vers la migration.
Madame Djamila, quelle est la durée légale d'un séjour d'un migrant dans le pays hôte?
Bon, ça dépend de la migration en fait. Par exemple, il y a ceux qui migrent, qui viennent vers les villes à la recherche des matériaux ou bien des matériels pour retourner à la maison. Ces genres de migrants, c'est une migration saisonnière, c'est-à-dire ils passent du temps, ils retournent. Et il y a des migrants aussi qui, quand ils migrent, ils ne reviennent pas.
Madame Aïchatou, quelle est la durée de migrants dans le pays hôte?
La durée de séjour est définie selon la personne qui est partie. Parce que souvent, chacun part avec un objectif bien défini. Si je pars pour juste avoir ça, si j'ai l'air, je rentre à la maison. Si je pars pour aller rester, ou bien si je pars là-bas, je trouve que c'est mieux que pour moi que de revenir. Souvent, les gens restent. Donc, tout dépend de l'objectif de celui qui migre.
Comme on parle de migration irrégulière, donc il n'y a pas de contrôle de la part de l'État des organisations sur place?
Bien sûr, quand on parle de la migration irrégulière, on parle toujours du contrôle de l'État, on parle toujours de l'irrégularité de la personne. Donc souvent, elles sont raquées. Les personnes qui partent en migration de manière irrégulière, ils sont raquettés, peut-être ils n'atteignent même pas le pays de destination, qu'on les rafle et qu'on les ramène dans leur pays de transit ou d'origine. Souvent, ils atteignent là-bas, ils sont capturés par la police, ils les ramènent directement. Donc, il y a toujours des lois qui sont là, qui définissent les trucs, les Les règles de la migration, voilà.
Est-ce que vous fournissez les bonnes informations dans les meilleurs délais à toutes les étapes de la migration?
Bon, pour les potentiels migrants, on avait organisé des sessions de sensibilisation dans les différents centres de jeunes ici à Niamey, à Tawa, à Zender et à Agadez, surtout les régions qui sont vraiment concernées par la migration. On avait fait, je pense, 20 sessions de sensibilisation et aussi on avait fait des émissions radio, toujours dans l'optique de donner des informations fiables à ces personnes qui veulent migrer. Donc, on leur donne des informations vraiment fiables, leur permettant de migrer en toute responsabilité et avec des objectifs bien définis. Et il y a des conseillers qui sont là. C'est un volet qui est là, conseil, orientation et assistance. Donc, la personne va sur les réseaux, sur Facebook, elle rentre, elle clique le projet Migrant en route. Directement, il tombe sur un formulaire qui est là. Il faut remplir des questions basiques, des questions simples, juste le nom, prénom, l'âge et pourquoi vous migrez, le pays de transit et le pays de destination où vous voulez aller. Donc, ce sont des questions simples que toute personne peut répondre. Donc, la personne répond, il envoie automatiquement, il est pris en charge et en toute confidentialité. Dès que vous envoyez votre réponse, une personne vous appelle pour vous entretenir avec vous. Souvent, c'est en direct, souvent, c'est à travers le téléphone, il donne des conseils. Toutes les informations fiables sur les risques que la personne encourt, non seulement sur la route, mais aussi dans le pays où il va aller de manière illégale.
Ça vous arrive d'aller vers les migrants ou bien eux-mêmes de venir vers vous? Sur le terrain?
Bon, sur le terrain, bien sûr. Mm-hmm. J'en ai beaucoup de témoignages. Lors de la dernière mission à Zender, c'était un forum communautaire sur la migration irrégulière. Il y a un monsieur qui passait. Il était venu, il dit, il veut témoigner. Il dit, il a entendu que c'est une sensibilisation qu'on fait ici sur la migration. Et il est venu conseiller aux jeunes qui sont présents de ne même dans le rêve de ne pas emprunter cette voie-là. Parce que lui, c'est par chance qu'il est revenu ici. Il est même de transit, il n'est pas nigérien. Mais c'est par chance qu'on l'a racketté et ramené au Niger. Et il est venu en meilleure santé.
Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que vous pouvez nous dire plus en détail ce qu'il a vécu pendant la trajectoire?
Non seulement tu parles avec... En partant même, il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent, mais sur la route, même avec tes papiers, à plus forte raison, lui, il dit qu'il n'avait même pas carte d'identité. Sur la route, non seulement les passeurs, les gens qui les transportent, ils prennent leur argent. Souvent, le jour où il était venu pour rentrer dans le véhicule, il n'y avait pas de place. On lui dit, mets un arbre quelque part et tiens l'arbre. Genre, le véhicule était rempli, il faut mettre une branche, peut-être une tige d'arbre, pour attraper et s'accrocher,
pour
les
ne
autres
pas tomber.
Apprennent. Exactement. Donc, imaginez ce qu'il va endurer tout au long du trajet. Il n'y avait pas l'eau sur la route. Leur nourriture, tout ce qu'il avait était fini. C'est difficilement il a pu arriver à destination où il est parti, en plus là-bas. Juste à la rentrée, ils l'ont capturé. Toutes ces souffrances qu'il a endurées, juste il est rentré, voilà, il dit voilà, kanchi de
ti
en hausa.
Ti.
Elle dit si la personne veut vraiment garder sa dignité, il ne va jamais emprunter cette voie. Ti mutunchi, voilà, kanchi duka wani quoi là, il dit qu'il a été victime de ça. Tout genre d'humiliation. Il a fait face à ça avant de revenir ici au Niger.
Merci pour cette anecdote, Madame Aïchatou. Madame Jamila, votre mémoire, vous aviez dit, était basée sur la migration. Selon vous, quel est l'objectif de cette migration, surtout féminine?
Bon, je peux dire que l'objectif de la migration féminine, c'est surtout à la recherche d'une vie meilleure. Les femmes migrent dans le cadre de trouver quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Surtout que ces femmes, des fois, leurs maris sont aussi en migration. C'est-à-dire ils sont seuls avec leurs enfants à la maison. Du coup, des fois même, leurs maris n'envoient pas de l'argent à la maison. Donc, ils sont obligés de quitter pour aller chercher de quoi nourrir la famille et surtout leurs enfants qui sont là avec eux.
Est-ce qu'il y a des avantages liés à cette migration?
Oui, il y a beaucoup d'avantages. Le fait de, il y a certaines femmes quand elles migrent, surtout les jeunes filles et les jeunes mariés, par exemple, des fois ils amènent des trousseaux de mariage, c'est-à-dire les trucs des rideaux, les parterres, les nattes, les tasses et autres. Ça c'est un des avantages. Une fois qu'ils migrent, des fois ils épargnent de l'argent, elles épargnent de l'argent, et c'est avec ça qu'elles achètent les trousseaux de mariage. Il y a d'autres aussi, ils amènent des alimentations, les riz, les maïs. Des fois même, ils trouvent des croûtes là, comment ça s'appelle, kusma sanzama. Des fois, c'est ça qu'ils ramènent à la maison pour nourrir la famille, pour subvenir à leurs besoins aussi pendant la saison pluvieuse. Parce que des fois, quand ils quittent pendant la saison sèche, ils reviennent pendant la saison pluvieuse pour cultiver à la maison. Donc, c'est avec ça, ils utilisent ça comme... C'est pendant une période. Donc, ils utilisent ça et après, ils retournent aussi pour...
Madame Aïchatou, quel est l'objectif de la migration féminine?
Bon, l'objectif, avec le nombre croissant de femmes qui migrent maintenant de façon indépendante et ou seules ou avec des enfants, des changements progressifs dans le dynamique des ménages se produisent. Aujourd'hui... Les femmes, quand elles partent, c'est pour chercher de quoi nourrir ma famille. Une femme, quand elle a de l'argent, c'est pour sa famille. Une femme, quand elle gagne quelque chose, c'est pour amener de la famille. Donc, c'est toute la famille qui en profite. Maintenant, on peut dire que l'objectif non, de cette migration, c'est toujours la recherche des conditions meilleures de la femme et ceux de sa famille.
Est-ce qu'il y a des avantages? Dites-nous plus sur ces avantages liés à la migration de la femme.
Les avantages, il y a des avantages positifs et des... Ok, les avantages...
Oui, positifs ou négatifs, voilà. Vous pouvez le dire.
Bon, les avantages, on prend les positifs, les avantages positifs, parce que négatifs, c'est les conséquences.
Qui oui, viennent. On va en venir.
Voilà, exactement. Mm-hmm. Les avantages, aujourd'hui, elle aussi, elle en profite. Il y a des femmes aujourd'hui qui reviennent de la migration, qui sont parties avec un objectif bien défini, parce qu'il faut le différencier la chose. Il y a des femmes qui partent. Oui, je parle comme ça, sans rien, sans objectif, sans je parle juste comme ça. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, c'est tant mieux. Il y a des femmes qui partent aussi avec des objectifs qui sont là bien définis. Donc ces femmes-là, quand elles partent, elles ont ce qu'elles ont. Elles ont déjà atteint leur objectif. Elles reviennent dans le pays d'origine. Et elles reviennent souvent avec de l'argent. Elles reviennent avec des matériaux de maison. Elles reviennent avec beaucoup de choses. On voit aujourd'hui des femmes qui souvent dans... Je pense que c'est toujours dans quartier où quand tu vois une maison qui est construite avec un semi-dur, un ciment, c'est une femme qui est partie en migration et qui est revenue. C'est la maison d'une femme migrante. Donc, les femmes, quand elles reviennent, il y a des personnes qui reviennent avec de l'argent. Elles achètent des parcelles. Elles construisent pour la famille, elles épargnent, elles achètent des animaux pour multiplier l'argent. Donc, il y a beaucoup d'avantages sans en prendre compte comment cette personne a eu l'argent ou tout ça, mais il y a des avantages liés à cette migration féminine.
Et du coup, c'est aussi un accroissement économique pour le pays?
Exactement. Mais ça contribue énormément au développement du pays. Parce que quand elle revient, la construction, souvent, elle met ses petits frères, elle les paye. C'est aussi donner du travail à ces gens-là. Quand elle achète des troupeaux, c'est pour donner à quelqu'un, il faut faire l'élevage. Donc, elle contribue énormément au développement socio-économique du Niger.
Les parcours migratoires, lorsqu'ils ne sont pas cadrés par des dispositifs administratifs ou juridiques, impliquent des risques sans aucun doute. Et lorsqu'on ajoute la dimension du genre, les difficultés peuvent être accrues. Quels sont ces risques auxquels ces femmes peuvent faire face et quels défis est-ce qu'elles relèvent pendant le mouvement et dans le pays d'accueil, Madame Jamila?
Les risques que les migrantes
en cours pendant
Oui,
la trajectoire.
il y a beaucoup de risques. Par exemple, il y a les femmes qui migrent pour aller en Algérie, des fois en Libye. Ces femmes parcourent beaucoup de risques, surtout quand ils empruntent la voie du désert. Je me rappelle, c'était, je ne sais pas, c'est en 2000, c'est en quelle année, mais je me rappelle, c'est au temps de Tanja Mamadou, le défunt président Tanja Mamadou. Il y avait eu beaucoup de morts au niveau de la région d'Agadez. Ce sont des gens des quartiers qui migrent pour aller en Algérie ou bien vers la Libye. Ces femmes se sont retrouvées mortes. Il y a des femmes, il y a des enfants aussi. Donc, il y a beaucoup de dangers
Elles sont face.
que ces femmes-là encourent. Il y a aussi les risques d'être violées. Il y a aussi les violences physiques. Il y a aussi les risques de braquage et les risques d'esclavage aussi, parce que des fois, si les gens qui empruntent la route de la migration, il y a des fois, ils font face à des bandits, des escrocs qui prennent leur argent.
Madame Aïchatou, quels sont les risques auxquels ces femmes peuvent faire face et quels défis est-ce qu'elles relèvent pendant le mouvement et dans le pays d'accueil?
Bon, merci. Même si on dit que la migration de la femme lui permet d'être autonome, il y a aussi beaucoup de risques auxquels elle fait face. Vous savez, les femmes et les hommes ne sont pas. La femme, c'est un être fait qui n'est pas vraiment fragile, quoi, un être fragile. Elle ne peut pas se défendre au même niveau que les hommes. Donc les risques sont vraiment énormes quand il s'agit de la migration de la femme et surtout celles-là qui partent avec des enfants. Souvent elles sont contraintes de partir avec les enfants puisque la famille va dire, ah, si elle part avec une ou deux enfants, elle va pas faire des bêtises. Souvent elles sont contraintes puisqu'elle elle n'a personne à qui confier leur enfant. Souvent aussi elles partent avec ces enfants-là parce qu'elles se disent que non, là-bas les Arabes ont plus pitié de la femme quand elle a des enfants. Donc il faut partir avec une ou deux un ou deux enfants afin de pouvoir gagner rapidement sa vie et de revenir. Donc, elle peut également augmenter leur risque d'être exposée à la grave violation des droits humains. Il y a aussi, les femmes migrantes sont confrontées à un risque élevé de violences physiques, violences sexuelles et psychologiques pendant leur migration. Il y a aussi la traite des personnes. Elles peuvent aussi être confrontées à des formes multiples de croisement de discrimination basées sur le sexe, le sexe, le genre, l'âge, le race, l'ethnie et l'handicap. Surtout quand il s'agit des femmes, on dit, ah, oui, bon, non. C'est comme un handicap, quoi. On te colle l'étiquette, tu es une femme, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Donc, elle peut faire confrontée à tous ces genres de choses. L'orientation sexuelle, l'âge, le race, l'ethnie et le statut migration dans le pays de destination maintenant. Si elles font face à tous ces risques avant d'atteindre les pays de destination. Maintenant, dans les pays de destination, c'est pas un Eldorado. C'est pas elles vont juste partir. Oui, on s'est confronté à tous ces risques. On est arrivé maintenant, c'est la paix et c'est tout. C'est encore un autre défi qu'il est là, qu'il faut faire face. Maintenant, il y a d'autres qui vont rentrer dans le travail informel, les autres seront exploités parce que oui, je suis venue pour travailler, peu importe le travail que vous me donnez, je veux le faire puisque je ne suis pas dans mon pays et je suis obligée de le prendre comme ça. Il y a d'autres qui sont exploités mais non payés même. Il y a des patrons qui te prennent, ils te mettent à travailler, tu travailles, au final, ils te disent, ah, mais je t'ai fait travailler, mais maintenant je te protège. Si tu dis que je te dois te payer, je vais aller te dénoncer. Tu es obligé de te ressaisir et de te conformer avec ce qu'il dit.
Les travaux
Donc,
forcés.
exactement. Donc, il y a aussi les femmes-là, quand elles partent, elles n'ont aucun accès souvent aux services, à la protection sociale et aux services de base. Donc, elles n'ont rien. La santé, souvent, il y a des gens qui tombent malades. Il y a quelqu'un, souvent, quand il sert une femme qui est violée, il n'y a pas de case de santé, il n'y a rien. Tu pars là-bas, peut-être tu as pris une quelconque maladie, tu pars, tu es laissé à toi-même. Donc, ils sont confrontés à toutes ces situations-là dans le pays d'accueil, de destination.
Qu'est-ce qu'elles doivent traverser? Qu'est-ce qu'elles doivent faire justement pour se sentir bien dans le pays d'accueil ou bien sur la trajectoire, sur la route, pour ne pas justement faire face à tous ces risques?
Je pense pas si la personne décide de migrer irrégulièrement. Est-ce qu'il y a...
Elles sont automatiquement confrontées à ça, ces risques. Il n'y a pas moyen de s'en sortir pour ces femmes.
Il y a d'autres qui ont la chance. Tu tombes sur une bonne personne, la personne te prend. Vraiment, c'est une bonne personne, elle te prend, tu as la chance, toi, tu es bien. Mais il y a d'autres, il faut... Quand la personne décide de migrer de manière irrégulière, tu es obligé de surmonter certaines...
Toute cette situation-là va engendrer, bien sûr, des conséquences. Donc, après cette péripétie que ces femmes ont vécue dans les pays d'accueil, sur la route, quelles conséquences est-ce que ça peut avoir sur leur personne?
On peut parler sur leur personne.
Oui, sur elles-mêmes, les conséquences en général et sur leur personne en particulier.
Non seulement on peut dire que il y a sur le pays il y a la dégradation des mœurs, parce que quand la personne, surtout quand souvent les filles, quand elles reviennent, elles ont le comportement des pays dans lesquels elles étaient, donc le comportement change tout. Donc on peut dire qu'il y a la dégradation des mœurs pour le pays. Il y a aussi l'image du pays qui est gâtée, parce que récemment on dit que la plupart des migrants du Sénégal, ou bien il y a un camp qui est là, des migrants nigériens qui ont créé leur camp. Donc, vous voyez, ça gâte l'image du pays même. Parce que des mendiants, on dit que c'est la plupart des mendiants des pays arabes ou des pays occidentaux, c'est des Nigériens. Vous voyez, c'est l'image du pays qui est gâtée ici. Donc, il y a l'image de la femme aussi. Quand une femme, oui, tu pars en migration, on te colle une étiquette, quoi. Tu es parti faire quoi? Tu es revenu avec tout cet argent, mais où est-ce que tu as eu tout cet argent? Donc, l'image de la femme aussi est gâtée dans cette affaire. On te colle une étiquette. Ah, peut-être elle est partie faire la prostitution. Peut-être elle est partie faire ci, elle est partie faire ça. Sans prendre le côté positif de la chose. Les gens te jugent à travers juste la migration que tu viens de faire. Donc, je pense que c'est...
Et sur la personne elle-même, ça ne peut pas avoir des impacts psychologiques?
Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on dit que la traite des personnes, toujours avec le vide ensemble sur la migration du Niger, vers et à travers le Niger, on dit 75% des victimes de traite des personnes identifiées au Niger en 2018 étaient des femmes et des jeunes filles. Si la personne, par exemple, elle fait face à une viol, c'est des séquelles qui restent pour toujours, pour toute la vie. Elle reste avec ces séquelles-là. C'est difficile de corriger cela. Donc, sur la personne, c'est beaucoup. Et si la personne contracte une maladie, il y a des personnes, à travers ces viols-là, elles contractent des grossesses. Donc, il y a beaucoup de conséquences qui est là. Et beaucoup, la personne... Non, pas sur la personne, c'est beaucoup de conséquences qui est là, mais souvent elles sont contraintes juste de quitter, de partir.
Madame Jamila, quelles sont les conséquences auxquelles elles peuvent faire face, les conséquences qui sont liées au genre dans la migration?
Bon, il y a beaucoup de conséquences. Si je prends par exemple, il y a l'abandon même de fois du mari d'une migrante ou bien de sa famille. Et par exemple, elle est partie en migration, elle est revenue. Des fois, certaines femmes reviennent avec des enfants qui ne sont pas de leur mari. Certains maris ne peuvent pas rester avec un enfant. C'est-à-dire, je ne peux pas rester avec un enfant qui n'est pas mon enfant. Donc, je suis obligée peut-être de prendre une décision de divorcer la femme. Certaines femmes endurent ce genre de problèmes. Il y a aussi certaines, quand ils reviennent avec des grossesses ou bien des enfants, c'est-à-dire des jeunes filles, je prends le cas des jeunes filles, ils sont abandonnés par leur famille. C'est-à-dire, on te dit là, tu es banni de la famille, il n'y a pas quelqu'un qui va t'accueillir. Tu es obligé peut-être de prendre une autre route, peut-être de rentrer dans la prostitution et autres pour t'en sortir. y a plein de risques qui sont là, il y a plein de conséquences qui sont là dues à cette migration féminine. Il y a aussi les risques sanitaires. Des fois, les femmes qui migrent, c'est-à-dire quand ils partent dans le pays d'accueil ou bien la région d'accueil, ils trouvent des endroits qui ne sont pas sécurisés. Ce sont des endroits qui sont exposés à des risques de viol ou bien de braquage ou bien des risques de contamination de certaines maladies. Donc, quand ils reviennent à la maison, elle peut même contaminer son conjoint ou bien la famille même. Donc, il y a beaucoup de conséquences qui sont là liées à cette migration féminine.
Mais une fois qu'elles sont dans le pays hôte, par exemple, quel comportement est-ce que ces migrantes doivent normalement adopter? La question pour vous, Madame Aïchatou.
Ces femmes doivent se conformer à la loi du pays de destination. Elles doivent se conformer à cela. Et souvent, quand tu pars irrégulièrement, tu es hors loi, en fait, je vais dire. Donc, cette loi-là même ne te concerne pas. Pour que tu puisses être en loi avec le pays de destination, il faut partir de manière régulière. Donc, si tu pars de manière irrégulière, je ne vois pas comment tu peux te conformer. C'est juste de se cacher, de chercher du travail, de faire le travail informel de gauche à droite, de courir de gauche à droite, afin de pouvoir atteindre ses objectifs. Si par hasard, vous tombez sur une bonne personne qui vous accueille, qui vous donne du travail et qui vous paye, c'est pas bien payé, mais qui vous paye vraiment celui-ci. Même si s'il ne vous convient pas, vous devez vous conformer, puisque c'est comme ça, vous êtes venu de manière illégale. Si vous sortez, s'il décide de vous dénoncer, c'est fini, vous retournez carrément où vous venez.
Madame Jamila, comment lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent les femmes à quitter leur pays d'origine?
C'est surtout de créer des centres de formation professionnelle, de trouver des activités génératrices de revenus pour ces jeunes filles ou bien pour ces femmes qui migrent à la recherche d'une vie meilleure. C'est surtout vraiment les activités génératrices de revenus pour les femmes. Peut-être de les financer dans le cadre de... Par exemple, il y a des femmes qui sont là, ce sont des femmes, ce sont des éleveurs, ils peuvent élever, ils peuvent faire l'élevage. C'est-à-dire, c'est de financer ces femmes dans ce cadre. Il y a certaines femmes, ils sont bien dans le domaine de l'agriculture. C'est de les financer dans le domaine de l'agriculture. Il y a certains aussi, ils peuvent faire de petits commerces. Il y a d'autres aussi qui peuvent faire des activités, de couture, c'est-à-dire de créer un centre de formation professionnelle, faire de couture, pour les femmes, les apprendre beaucoup de choses. Il y a des savons liquides, plein de choses qu'on peut apprendre aux femmes qu'ils peuvent faire ici au Niger et puis qu'ils peuvent gagner leur vie.
Vous savez, vous avez soulevé la migration interne, par exemple, les femmes qui quittent des localités vers les grandes villes. Par exemple, les femmes qui sont dans les zones d'insécurité, vous avez parlé de leur financer un moyen pour qu'elles puissent faire l'agriculture.
Oui.
Nous savons bien que dans ces zones, elles n'ont plus accès à la terre. Donc, pour ces femmes-là, qu'est-ce que vous suggérez?
Bon, peut-être c'est des...
Pour éviter la migration.
Oui, pour éviter l'agglomération. Peut-être c'est d'investir dans d'autres domaines qui n'est pas l'agriculture. Peut-être il y a d'autres domaines qui sont là. J'ai une fois causé avec une migrante qui me disait qu'eux, dans leur localité, en fait, il n'y avait pas des femmes qui font de la couture. Du coup, elle, quand elle est venue ici à Niamey, et qu'après, quand elle est retournée, elle a acheté une machine pour coudre des habits. C'est des trucs comme ça. C'est-à-dire, il faut causer, il faut échanger avec les migrantes pour savoir ce que les migrantes vont et ce que les migrantes veulent. Et peut-être il y a d'autres opportunités qui ne sont pas l'agriculture. Il y a d'autres domaines. Et puis, c'est-à-dire, il faut vraiment partir vers ces femmes migrantes et leur demander qu'est-ce qui les pousse à aller et emprunter la voie de la migration. Et puis, qu'est-ce qu'elles veulent au juste?
Madame Aïchatou, que pensez-vous qu'il faudra faire contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent ces femmes à quitter leur pays d'origine ou leur localité?
Bon, sur cette question, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses qui restent même à faire. Parce que aujourd'hui, autonomiser une femme, c'est autonomiser toute une nation. La femme, quand elle a quelque chose, c'est tout un pays qui gagne. Donc, je dirais que pour y remédier à tous ces facteurs, à tous ces fléaux, tout ce fléau qui font face le Niger, je dirais qu'il faut vraiment aider ces femmes-là à exploiter leur plein potentiel. Parce que ces femmes-là, elles ont des potentiels. Comme elle vient de le dire, il y a des femmes qui sont vraiment excellentes dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. C'est d'aller vers ces femmes-là, échanger avec elles, recueillir leurs besoins et venir proposer des trucs intéressants leur permettant de s'autonomiser. Maintenant, vous avez parlé des zones où il y a l'insécurité. Les zones où il y a l'insécurité, je crois que. Bon, même si maintenant on n'en parle plus récemment, on était à Ayeru où il y a les jeunes filles qu'on devait s'approcher à ces jeunes filles-là, demander qu'est-ce qu'elles veulent dans le futur. Il y a une fille qui dit que elle veut apprendre la couture parce que elle venait de Sanam. Parce qu'on avait recueilli des jeunes filles de Sanam, de toutes les zones proches de sécurité pour les amener à Ayeru. Elle dit que dans Sanam, il n'y a pas quelque part où on peut amener à un habit et coudre. Donc il faut qu'on leur apprend la couture.
Le même exemple que Madame
Exactement. Donc
Jamila.
Vous voyez, quand vous allez vers ces femmes-là, vous aurez tous les besoins de ces femmes-là. Maintenant, c'est de les classer en fonction des besoins qui sont urgents. Parce qu'il y a d'autres qui sont urgents. Il y a vraiment des besoins qui sont vraiment très urgents. Il y a des besoins qui sont là, ça peut attendre. Donc, c'est de les classer en fonction des besoins qui sont urgents et de mettre en œuvre des projets importants leur permettant de faire face à ces fléaux-là. Elle parle d'activités génératrices de revenus. Je dirais que c'est pas qu'il n'en manque pas. Aujourd'hui, au Niger, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'organisations nationales et internationales qui œuvrent dans ce domaine-là. La formation d'activités en AGR. Il y a beaucoup d'ONG qui sont là. Souvent, je me dis que les femmes nigériennes, elles sont fainéantes. Parce que vous voyez, les femmes migrantes qui viennent du Togo, du Bénin, elles viennent ici, elles font le ménage dans les maisons. Chez ma grande soeur, là, une fille est payée à 70 000 juste pour le ménage. Mais une femme nigérienne, quand tu la prends, elle ne va pas te faire le travail que tu veux. C'est une béninoise, elle est payée à 70 000, elle fait juste la cuisine. Celle qui fait le ménage, c'est une malienne, elle est payée à 40 000. Vous voyez? Une Nigérienne, tu la prends, elle fait une nuit, deux nuits, elle va se dire qu'elle est fatiguée, elle ne va pas le faire. Tu vas les prendre, oui, mais elles ne vont pas te faire le travail que tu veux. Je dirais que les femmes, surtout les jeunes filles nigériennes, nous sommes vraiment fainéantes. Il faut qu'on se remette au travail. C'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est pas que ça manque. La formation des activités généralistes de revenus, il y en a beaucoup. Parce que moi, j'ai tenu beaucoup de projets sur ce coup-là. J'étais en Nigeria, on avait formé des femmes vraiment extraordinaires, qu'aujourd'hui, grâce à leur projet, elles ont construit des classes. Elles ont construit des mosquées dans leur village, à Lelei Koinouga. Récemment, j'étais en Nigeria avec Samira Ben au sommet. Donc, on avait mené un projet Moringa Land. Ça a consisté à former les femmes dans la production, la transformation et la commercialisation du Moringa. Donc, ces femmes-là, elles ont réalisé beaucoup de choses. Donc, c'est de vraiment cibler les femmes qui en ont besoin. Il y a des femmes qui ont les opportunités. Surtout les jeunes filles-là, ils ont les opportunités, mais ils les refusent. Mais cibler les femmes qui sont engagées, qui en ont vraiment besoin. Et formez-les et vous aurez des changements qui seront vraiment importants pour la population.
Je voulais juste ajouter quelque chose. Et en fait, j'ai une fois échangé avec une femme migrante qui me disait qu'elle, quand elle vient à Niamey, c'est juste pour se reposer. Comme au village, elle fait le travail, il y a le travail de, elle part chercher de l'eau au niveau de puits et autres.
Les
corvées au quotidien et autres. Mais quand elle vient à Niamey, elle se repose et puis elle utilise les produits cosmétiques, là, les éclaircissants. Et c'est juste pour se reposer. Quand elle retourne à la maison, c'est pour se montrer belle. Oui, qu'elle était en ville, qu'elle est venue à Niamey, qu'elle s'est civilisée et puis elle est devenue belle avec des formes et autres. C'est juste pour expliquer un peu.
D'accord, l'objectif, elle, de sa migration, c'est
sa migration.
Son physique.
Oui, c'est son physique. C'est juste pour se reposer, être belle et retourner au village.
Si vous rencontrez une femme qui projette de migrer, qu'allez-vous lui dire?
Bon, moi, c'est surtout sensibiliser ces femmes migrantes-là de ne pas emprunter la route de la migration. Surtout que pour nous, les femmes, surtout qu'il y a des risques que nous, les femmes, de lui expliquer les dangers liés à la migration. Il y a plusieurs dangers qui sont là. Il y a les risques aussi que les femmes, il y a des risques qui sont là. C'est surtout expliquer à cette femme de ne pas vraiment prendre la route, de ne pas emprunter la route de la migration.
La même question pour vous, Madame Aïcha.
Une personne qui est en face de moi, je lui dirais que dans un premier temps, je veux lui demander vraiment, oui, je vais migrer, mais vous allez migrer de quelle manière, régulière ou régulière? Si c'est pour aller étudier à des filles qui sont là, qui prennent la voie régulière, qui partent, qui travaillent ou qui partent étudier et revenir. Si c'est une dame qui veut emprunter la voie irrégulière, je vais d'abord lui expliquer tous les risques auxquels elle va faire face. Je vais lui expliquer les risques non seulement sur la route et dans le pays d'accueil. Maintenant, je vais lui expliquer toutes les opportunités que lui offre son pays d'origine. Parce que le Niger, on a beaucoup d'opportunités. Les opportunités, là, il faut expliquer. Peut-être la personne ne sait pas. Elle ne connaît pas si je fais ça. Avec l'argent que tu as aujourd'hui, qui te permettra de migrer irrégulièrement, cet argent te permettra de mettre en œuvre un petit commerce qui te permettra de subvenir à tes besoins. Donc je vais lui expliquer les risques de la migration irrégulière auxquels elle va faire face, et je vais lui mettre aussi expliquer de A à Z les opportunités que lui offre son pays, qui est le Niger.
Quel appel leur lancez-vous en général?
Les femmes, restez chez vous, travaillez et gardez vos familles, vos voilà. Foyers.
Les femmes du Niger migrent pour diverses raisons, notamment pour échapper à la pauvreté, par manque de possibilités en termes de moyens de subsistance durables et pour cause d'insécurité alimentaire résultant de plusieurs facteurs selon nos invités. Elles migrent principalement au niveau régional en Afrique de l'Ouest et dans une moindre mesure vers l'Afrique du Nord et l'Europe, avec un nombre croissant qui migre de manière indépendante et ou avec leurs enfants. Les femmes migrantes sont confrontées à des défis importants et complexes qui peuvent constituer des obstacles à une migration sûre et régulière. Elles font face à des risques élevés de violation de leurs droits, notamment la violence sexuelle et la traite des personnes, ainsi que l'absence de travail décent, de protection sociale et de services publics tels que les soins de santé, la justice et l'éducation. Elles sont aussi confrontées à des formes multiples de croisées de discrimination sur la base de caractéristiques interdépendantes telles que le sexe, la race et le statut migratoire. Toutefois, la migration peut être un facteur d'autonomisation des femmes dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'autosuffisance économique. Ici se termine ce forum. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à vous, chers invités, pour votre participation. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro du forum du studio Kalangu sur les ondes de nos 52 radios partenaires. D'ici là, portez-vous bien.